Vous écoutez RTL.
Allez, tout de suite dans la curiosité, un grand destin, celui de Madame de Maintenon. Bonjour Florence Monteil.
Bonjour Madame
Bienvenue.
C'est moi.
Heureux de vous retrouver. Vous racontez l'histoire de Madame de Maintenon dans le magazine Notre Temps. C'est en partenariat avec RTL. Allez, juste pour démarrer, si vous deviez en quelques mots résumer ce destin extraordinaire, vous diriez quoi?
Un seul mot, Cendrillon.
Madame de Maintenon, ça démarre dans la misère.
C'est l'histoire de Cendrillon. C'est une aristocrate déchue qui va aller jusqu'à mendier sa nourriture, donc qui part de très très bas et qui va finir par épouser son roi charmant, Louis XIV.
Comment Madame de Maintenon est-elle donc passée de la misère à la splendeur de la cour? C'est le récit d'une ascension royale qu'on vous propose sur RTL.
Jusqu'à 15h, les murs qui ferment ma retraite seront ceux de mon tombeau. Quand je serai morte, les dames de Saint-Cyr vous diront que j'étais une sainte. Ce portrait-là est faux.
La curiosité est un vilain défaut.
Dieu, pas à pas, m'a fait gravir le chemin de la cour de la prison où je suis née à la cour de Versailles.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, sur RTL.
Extrait du film L'Allée du Roi qui raconte l'histoire de Madame de Maintenon, film de 1995. On découvre ce destin avec Florence Monteil. Vous êtes journaliste au magazine Notre Temps. Je le rappelle, vous publiez ce portrait en partenariat avec RTL. Pourquoi aujourd'hui? Parce que elle est morte, Madame de Maintenon, le 15 avril 1719. Donc on va célébrer cet anniversaire en quelque sorte 3 siècles après sa mort. Est-ce que vous pouvez nous la décrire? Est-ce que c'était une belle femme?
Très belle. Belle et charismatique. Donc physiquement, elle n'était pas particulièrement grande, mais elle était très mince. Et elle avait de grands yeux noirs qui ont été décrits par des poètes et des écrivains.
Elle était blonde, elle était brune.
Ouais. Et à chaque fois qu'elle est décrite, c'est à la fois ses atours physiques qui sont décrits, mais aussi le fait de ce regard émutin, qu'elle respire l'intelligence, que c'est une femme pétillante. Là, on entend un peu un extrait où on entend cette image de Madame de Maintenon, un peu plombante, un peu austère.
Elle était drôle, elle avait de l'esprit.
Et elle avait beaucoup d'esprit.
Elle était fun, Madame de Maintenon.
Oui, absolument. Mais oui. Et on est resté sur l'image de la fin de vie de Madame de Maintenon, mais à 25 ans, elle a un amant, elle pose nue pour lui. Enfin, c'est pas. Elle est beaucoup plus compliquée que l'image qu'on a gardée d'elle.
C'est comme quand on a raconté ensemble Florence Monteil, Agatha Christie, on avait tous l'image de la vieille dame qui écrit toute seule. Et puis on a découvert grâce à vous qu'elle faisait du surf en Australie
et que c'était
une pionnière. Bref, revenons à Madame de Maintenon. Non, mais ça me fait penser à ça. Revenons à Madame de Maintenon. On va raconter rapidement, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, la première rencontre avec Louis XIV. C'est quand, c'est à quelle occasion?
Alors, c'est en 1670. Elle est depuis peu, en fait, la gouvernante, mais dont le plus grand secret, du premier enfant illégitime de Louis XIV, avec sa favorite, sa grande favorite, Madame de Montespan. Donc, il va forcément, en venant voir son enfant, rencontrer cette gouvernante. La première rencontre se passe donc, elle a 35 ans, 1670, lui a 3 ans de moins, ils ont presque le même âge. Ouais. Ça se passe pas bien du tout.
Qu'il la drague et qu'elle résiste?
C'est un peu l'inverse. C'est-à-dire, bon, lui, forcément, c'est le roi, il est un peu intimidant quand même. Et puis, elle a une réputation un peu de bel esprit. Hein. Elle a été précieuse, elle est connue pour ça, elle a tenu salon parce qu'elle a eu un premier mariage, elle a une vie avant.
Et donc pourquoi ça se passe mal entre les deux?
Et ben parce que Louis XIV n'avait pas une très grande confiance dans son esprit, dans l'art de la galanterie, l'art de la répartie. Et donc il se méfie d'elle. Il n'aime pas les beaux esprits. Et pour lui, c'en est un.
On y reviendra tout à l'heure, Florence Monteil, mais parce que Françoise d'Aubigné. Voilà,
Françoise d'Aubigné. Appelez-moi Françoise d'Aubigné.
C'est son vrai nom. Elle devient Madame de Maintenon parce que Louis XIV va lui offrir le château de Maintenon et le titre qui va avec. Mais ça démarre en novembre 1635, ce destin, à Niort, dans un lieu particulier. Il faut détailler ça.
Ben oui, parce qu'elle elle commence sa vie en prison.
La petite Françoise.
Elle naît en prison. Elle est la fille d'un monsieur d'Aubigné, qui est quand même le fils d'Agrippa d'Aubigné, qui est un grand poète protestant, c'est important, et donc qui est un aristocrate, et qui était un mauvais sujet, c'est-à-dire qu'il a tué sa première femme et son amant. C'est un assassin qui s'en est sorti, c'est un escroc qui s'en est moins bien sorti, et là il est présentement en prison pour dette, mais il est régulièrement en prison. Il a épousé la fille du directeur de la prison, parce que ça pouvait arranger ses affaires, et donc il a, avec cette femme, dans sa geôle, parce qu'elle vit avec lui, faute de moyens aussi, cet enfant, cette petite Françoise. Donc elle naît en prison.
Qu'est-ce qu'elle va vivre comme, quel va être son destin après la prison, Madame de Maintenon? Elle va voyager avec son père, qu'est-ce qui va lui arriver?
Alors, la petite enfance, elle a de la chance, elle est chez une tante qui est plutôt aimante et ça se passe bien. Et puis alors après, le père qui est décidément a des idées farfelues, décide d'aller faire fortune aux Amériques, c'est-à-dire très concrètement en Martinique. Donc il emmène la famille, elle a 6 ans quand elle part, la petite Françoise, et elle va passer 6 années en Martinique à regarder son père se ruiner et rien réussir, et être obligée de revenir en France, en fait, à 12 ans, dans des conditions très, très mauvaises.
Et c'est là, à La Rochelle, qu'elle va mendier. Elle a été mendiante.
Parce qu'en fait, quand elle revient avec sa maman et ses deux frères, le père meurt. Et donc, elle se retrouve là où elles accostent, à La Rochelle, sans un sou, avec des dettes. Donc, elles sont obligées, elles arrivent à s'installer dans une mansarde. Et les enfants, dont Françoise, mendient la soupe aux portes des couvents.
Et cette petite fille, devenue adolescente, va saisir sa chance, notamment grâce à l'éducation. On vous raconte cette ascension royale, ce destin extraordinaire sur RTL. Restez avec nous.
Fascinant destin que celui de cette roturière née dans la prison de Niort, délaissée par ses parents, est devenue une des femmes les plus puissantes de son temps.
La curiosité est un vilain défaut.
Madame de Maintenon a fait l'objet d'une biographie romancée de François Chandernagor.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ce qui frappe lorsqu'on étudie la vie de cette femme, c'est la diversité des points de vue.
Sur RTL.
D'un historien à l'autre, on a l'impression que nous ne sommes pas en présence de la même femme.
Madame de Maintenon, plusieurs visages, plusieurs récits, c'est ce que vous nous racontez, Florence Monteil. C'est la royale ascension, thème de notre curiosité sur RTL. Florence Monteil, vous nous l'avez expliqué, c'est une femme, c'était une femme fun, une femme brillante, une femme intéressante, et on n'en a pas toujours cette image, on en a parfois l'image d'une femme un peu plombante ou plombée. En tout cas, on est dans son destin là. On raconte cette naissance en prison, ce voyage aux Amériques avec son père qui se ruine, ce retour en France dans le port de La Rochelle où elle a 14 ans, on est en 1649. Et là, elle mendie sa nourriture. Comment va-t-elle sortir de cette misère ?
Alors, une fois de plus, la famille va venir à la rescousse, puisque c'est sa marraine qui va la récupérer, d'abord dans la région de Niort, puis à Paris. Et avec cette particularité, c'est pour ça que ça fait penser à Cendrillon aussi, c'est que cette marraine est catholique, donc elle est protestante, Françoise d'Aubigné, et elle a une obsession, c'est convertir la petite Françoise pour qu'elle rentre dans le giron de l'église et qu'elle puisse du coup la présenter dans les salons parisiens et qu'elle ait une vie normale pour égard à son rang. Et donc elle va la traîner de couvent en couvent, période durant laquelle la mère de Françoise d'Aubigné va mourir, un de ses frères aussi, donc elle est très isolée. Et elle va sentir très douloureusement cet enfermement de couvent en couvent. Donc elle va finir par dire « Ok, très bien, je suis plus protestante, je suis catholique.
» Et elle va chercher à se marier ?
C'est pas elle qui va chercher, mais bon, c'est un peu le destin d'une femme aussi au XVIIe siècle. Et il se trouve que, effectivement, introduite dans les salons, elle va attirer l'attention d'un homme qui est Paul Scarron, qui est un des grands esprits vraiment du XVIIe siècle, un grand ami de Molière, La Fontaine, un brillant poète, brillant écrivain.
Plus vieux qu'elle.
25 ans de plus. Ouais. Et il va la remarquer, il va être ému de sa beauté, mais il va aussi être frappé de son intelligence et de sa vivacité. Il va lui faire une proposition assez étonnante et finalement généreuse, qui est soit de la doter pour qu'elle puisse aller dans un couvent, parce que quand on allait dans un couvent, qu'on épousait Dieu, il fallait quand même payer le couvent, soit de l'épouser lui-même. Et donc, elle est placée là devant un choix, ouais. Et elle va choisir ce qui va la priver le moins de sa liberté, une fois de plus. Elle va choisir le mariage.
Et il va lui ouvrir les portes de ses amis aussi. C'est-à-dire, elle va, grâce à lui, elle va rencontrer de brillants esprits de l'époque.
Elle va côtoyer Madame de Sévigné, Madame de Lafayette, La Fontaine, Molière, Ninon de l'Enclos, grande courtisane qui va devenir une amie, Madame de Montespan, qui va jouer un rôle très important dans sa vie après. Donc là, c'est... je dirais la seconde vie, parce qu'on dit qu'il y a plusieurs points de vue sur Madame de Maintenon, ouais. Mais en réalité, elle a plusieurs vies. Donc ça dépend quelle Madame de Maintenon on regarde.
Et si vous c'est... disiez par exemple tout à l'heure qu'à une époque de sa vie, elle a posé nue pour son amant, c'était qui ?
Alors c'est après, quand elle devient veuve de Paul Scarron, elle résiste, elle est fidèle à cet homme qui, il faut le dire, était quand même paralysée, hein, des pieds à la nuque, qui se déplaçait dans un fauteuil roulant, donc elle n'a pas vécu des heures très faciles auprès de cet homme, qui va l'éduquer, l'instruire, absolument. Et donc elle est extrêmement courtisée, parce qu'elle est belle et brillante. Il y a notamment un homme qui va beaucoup la troubler, elle va résister, mais quand elle devient veuve, elle va craquer. C'est le marquis de Villarceau, qui peint très bien. Et donc il y a dans le Val d'Oise, le château de Villarceau, on peut regarder ce tableau d'une femme très belle, nue, et c'est la future Madame de Maintenon.
Alors, on l'a dit tout à l'heure, les portes de la cour s'ouvrent en 1669 pour Madame de Maintenon, grâce à celle qui l'a précédée dans le lit de Louis XIV, c'est donc Madame de Montespan. Elle va élever, c'est ça, leur enfant illégitime. C'est en fait la nounou, c'est ça, en quelque sorte, auprès de... Comment elle va remplacer petit à petit Madame de Montespan dans le cœur de Louis XIV ?
Alors, ça va être très long. En fait, hein, parce qu'elle la voit venir, hein, la Montespan, donc il va y avoir des querelles de femmes. Hein. Mais ce qui se passe, c'est que, donc, elle joue le jeu du secret. Donc, ça va beaucoup impressionner le roi, parce qu'elle accepte donc de s'occuper de ses enfants presque clandestinement et quand même de continuer à apparaître à la cour pour qu'on ne soupçonne pas l'existence de ses enfants. Elle va faire ça pendant 3 ans. Il va y avoir 3 naissances. Et il va voir cette femme, donc à chaque fois qu'il va voir ses enfants, il voit cette femme qui est douce, qui est calme, qui est posée, qui est charmante, et qui est absolument le contraire, l'antimatière de Madame de Montespan, qui est une femme flamboyante, très belle, très intelligente aussi, mais assez hystérique, très jalouse de ce roi qui, quand même, faut le dire... aime les femmes, hein, il va avoir jusqu'à 30 favorites, plusieurs en même temps, voilà. Donc il trouve auprès de la veuve Scarron, ce qu'elle a encore à ce moment-là, il va trouver du calme, de l'apaisement, et il va découvrir qu'elle a un cœur maternel. Et lui, qui n'a pas eu une enfance avec une mère très présente, va être extrêmement ému et touché de ça. Et c'est comme ça que peu à peu, le charme va opérer.
Et justement, on va raconter dans un instant comment Madame de Maintenon va devenir la meilleure amie, la confidente du Roi Soleil. A tout de suite sur RTL.
RTL.
Le château est situé sur la route de Chartres, à une demi-journée de distance des châteaux de Versailles et de Saint-Germain.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Elle va acheter maintenant sans le voir. Il fallait une position et cette position, c'était d'avoir un grand domaine.
Madame de Maintenon va à nouveau savoir tirer profit de la situation.
La curiosité est un vilain défaut.
Et c'est Florence Monteil, journaliste au magazine Notre Temps, qui nous dévoile l'histoire, les secrets de Madame de Maintenon, disparue il y a 3 siècles, en avril 1719. C'est une longue et belle histoire quand même, l'histoire de Madame de Maintenon et de Louis XIV. Pendant combien de temps, de décennies même, ont-ils vécu ensemble ?
Tout compris.
Oui.
Je vous fais un peu.
Depuis la première rencontre
depuis
jusqu'à la mort de...
C'est-à-dire, en fait, depuis le début de la liaison, jusqu'à la mort de Louis XIV en 1715, ça représente 41 années. Ils sont mariés 32 ans, mais ils se sont connus et ils ont été amants.
C'est lui qui lui donne ce titre et ce nom, c'est ça, en lui offrant un château.
Alors en fait, il lui donne l'argent qui va lui permettre de le faire.
D'accord.
Elle est quand même obsédée par sa sécurité, on le comprend.
Quand on a été mendiante.
Quand elle est mendiante, qu'elle se retrouve veuve Scarron sans un sou, parce que c'est pareil, il n'avait que des dettes, Scarron. Donc elle sait ce que c'est quand même, hein, la misère et la précarité. Donc elle veut un titre, elle veut une sécurité. Et donc... il va lui donner de l'argent qui va lui permettre d'acheter le château et donc le marquisat de Maintenon.
Mais est-ce qu'elle vit à Maintenon ou elle vit à Versailles,
Madame
de Maintenon ?
Non, elle vit très peu à Maintenon. Elle vit à Versailles, d'autant que en 1673, le roi va légitimer les enfants qu'il a eus avec Madame de Montespan. Et du coup, tout le monde vient à la cour, qui est à ce moment-là au château de Saint-Germain-en-Laye. Et là, il va côtoyer tous les jours, de façon ouverte, cette donc du coup Madame de Maintenon, dont le passé obscur de veuve Scarron et balayer. Et là, lui, va commencer à être très, très entreprenant. Et elle va faire quelque chose de dingue. Elle sait qu'elle va donc démarrer une liaison avec le roi. C'est quand même difficile de refuser. Et pourtant, elle va le faire. C'est-à-dire qu'elle démarre la liaison. Et là, intelligente, elle se dit « Je ne peux pas devenir une conquête parmi d'autres. Il va se lasser, ça va me banaliser. » Donc, elle s'est refusée à lui. Et elle a dit « On arrête. » Et pendant 5 ans,
elle résiste.
Pendant 5 ans, elle résiste. Alors, il va avoir d'autres maîtresses, etc.
Mais elle n'arrive pas à l'oublier.
Elle continue à la courtier, là, puis elle maintenant. Est là, concrètement. Ouais. Hein. Elle est là. C'est en train de devenir la mère de ses enfants.
Et comment elle devient, Madame de Maintenon, la conseillère, la confidente, la meilleure amie? Comment une femme peut prendre une place aussi importante au XVIIe siècle auprès du roi?
Parce qu'elle joue ce rôle que personne d'autre ne joue, en fait, auprès de Louis XIV, de l'intimité domestique apaisante. Aucune de ses favorites ne lui a jamais apporté ça. Et elle est intelligente. Donc, ils ont des vraies conversations. Ils se reposent auprès d'elle. Elle l'amuse, elle le repose, elle
l'apaise. C'est pas une emmerdeuse, Madame de Maintenon, c'est ça? Elle est apaisante et conseillère.
Est-ce qu'elle va jusqu'à devenir une conseillère politique?
Alors ça, c'est une chose qu'on a beaucoup dite à propos de Madame de Maintenon, à la fois qu'elle aurait pesé sur des décisions, et puis que c'est elle qui aurait amené cette espèce de vent austère de bigoterie à la fin du règne. L'influence politique, surtout ce qu'on lui a reproché, c'est qu'elle aurait pesé sur la révocation de l'édit de Nantes, donc qui a entraîné la persécution des protestants. C'est totalement faux, ça. C'est-à-dire qu'elle a surtout pas pesé sur cette décision, et puis elle avait pas vraiment d'influence politique. Elle avait une ascendance morale et affective. C'est elle qui gérait la vie familiale. Les problèmes entre les enfants, les petits-enfants, etc., c'est elle qui gérait tout ça. Mais sur la politique, c'était le roi Soleil quand même. C'était un autocrate. Et il n'allait pas partager...
Mais ils se sont mariés. Oui. Il l'a épousée, mais pas officiellement.
Alors, en secret, mais pas clandestinement. Deux mois après la mort quand même de Marie-Thérèse, l'épouse,
la reine.
Ouais. En fait, il va quand même demander l'autorisation. Il veut faire un mariage d'amour. Il se dit, je suis arrivé à un âge où j'ai quand même le droit de faire un mariage d'amour. Et il l'aime depuis longtemps. Et il va demander à la fois à ses conseillers, ses ministres et au pape le droit d'épouser cette femme devant Dieu. Et on va lui dire oui. Mais ce sera un mariage morganatique, c'est-à-dire elle n'aura jamais le titre de reine. Donc il y a les happy few qui savent, et la majorité des courtisans ne savent pas que cette femme qui est là, qui est clairement la favorite, elle épouse devant Dieu de Louis XIV.
Merci beaucoup Florence Monteil. Il y a aussi la dimension pédagogue de Madame de Maintenon à découvrir dans votre article dans le magazine Notre Temps. C'est en partenariat avec RTL.
À bientôt Florence.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.